Ça va?
Ça va bien?
Ça marche?
Ouais.
C'est pas du vent.
On continue?
Oui.
Anne-Cécile Barra.
Si vous nous rejoignez, nous vous parlons de ceux qui font la transition écologique aujourd'hui en France et ailleurs. Sans attendre une impulsion politique ou des aides financières, ils innovent dans leur quartier ou dans leur ville. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart de leurs innovations sont duplicables. Avec moi pour en parler, dans le studio 53 de RFI, Pascal Derme, auteur de « Ils l'ont fait et ça marche, comment l'écologie change déjà la France », publié aux éditions Les Petits Matins, et Jonas Guyot, qui a vécu avec Mathieu Dardaillon trois voyages de trois mois aux Philippines, en Inde et au Sénégal, pour découvrir les innovations de lutte contre la pauvreté duplicables en France. L'après-pétrole, Pascal Derme par exemple, a déjà commencé. Vous parlez de transition énergétique dans votre livre. Et un peu partout dans le monde, des collectivités locales, des territoires ruraux et urbains ont décidé de s'émanciper progressivement de leur dépendance aux hydrocarbures dans les domaines du transport, du chauffage et de l'approvisionnement alimentaire. Et en France aussi. Bonjour Michel Maillat.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Tramaille, une commune rurale de 1000 habitants située au sud de la Bourgogne, dans le centre-est de la France. Et depuis 2003, vous avez impulsé la transition énergétique de votre commune en partant du principe que, comme beaucoup de communes et de villes, vous viviez au-dessus de vos moyens.
Au-dessus de nos moyens énergétiques, ça c'est très clair. Hein. On dépense beaucoup plus d'énergie que nous ne sommes capables d'en produire. Et il est évident qu'en continuant avec cette ligne de conduite, eh bien, on va droit à la catastrophe. Nous avons pris des orientations, et elles se concluent ces dernières années, sur des engagements pour devenir des territoires à énergie positive. Et essayer sur notre territoire, d'une part, de mener des actions de réduction de consommation d'énergie, et d'autre part, des actions de création d'énergie renouvelable, pour que l'on puisse, si possible, atteindre notre autonomie énergétique.
Alors, comme vous êtes entouré de massifs forestiers, vous avez eu l'idée d'installer une chaufferie à bois pour alimenter les bâtiments publics. Mais ça coûtait quand même 1 million d'euros et vous ne vouliez pas augmenter les impôts. Alors, comment vous avez fait?
Là, c'est très très simple. Hein. Il suffit de se promener dans la rue de Tramaille, d'aller voir le banquier qui est installé et de lui demander de nous prêter l'argent qui n'est pas apporté par les subventions. Alors, les subventions sur un projet d'1 million d'euros, c'était de l'ordre de 50%, à peu près 500 000 euros. Et donc, on a réussi à convaincre notre banquier de nous prêter 500 000 euros. Comme il savait qu'on était des gens sérieux et qu'on risquait de lui rembourser les 500 000 euros avec en plus des intérêts, eh bien, il n'a pas hésité à nous prêter cet argent.
Voilà, vous avez eu cette chance. Alors, les copeaux de cette chaufferie proviennent d'une Syrie voisine, ce qui limite l'approvisionnement et les transports. Et l'hôpital, la bibliothèque, la poste et l'école sont désormais alimentés. Et il y a aussi des habitants qui se sont raccordés.
Oui, nous avons fait une extension de réseau pour raccorder des particuliers qui étaient demandeurs pour se brancher sur ce réseau de chaleur renouvelable. Si bien que maintenant, nous n'avons plus aucun bâtiment communal utilisant pour son chauffage des énergies fossiles.
Alors, comme vous le disiez, le défi, c'est aussi de diminuer la consommation d'énergie. Alors, vous êtes donc lancé dans l'éco-construction, d'une part, l'isolation des bâtiments, la construction d'un éco-quartier et la gestion raisonnée de l'éclairage public. Alors, quel résultat ça donne aujourd'hui?
Bien, au niveau de l'éclairage public, en essayant de convaincre que nous n'avions pas une nécessité impériale d'avoir de l'éclairage à 2h du matin dans notre petit bourg de Tramaille, eh bien, nous avons pu diminuer notre consommation de moitié. Nous étions à 100 000 kWh annuels, donc nous avons baissé de 50 000 kWh annuels. Et nous continuons nos actions, je dirais, de moindre consommation, puisque pas plus tard qu'en 2012, nous avons changé nos ampoules, nos anciennes ampoules de 125 watts, pour mettre des ampoules de 70 watts qui éclairent tout autant, mais qui, bien entendu, seront moins consommatrices. Et c'est toujours ça de moins en rejet de gaz à effet de serre.
Et pour l'éco-construction, vous en êtes où?
Alors pour l'éco-construction, eh bien on devrait donner donc les premiers coups de pioche ou de pelleteuse plutôt cette année. Donc c'est un projet d'une soixantaine de logements qui vont être raccordés au réseau de chaleur.
Vous avez aussi travaillé sur les économies d'eau.
Sur les économies d'eau, oui, c'est relativement simple. Hein. Il suffit de collecter les eaux de pluie que l'on peut avoir sur nos toits d'école, d'église ou autre, pour ensuite utiliser cette eau pour faire de l'arrosage de massifs floraux.
C'est simple, nécessaire. Mais tout le monde ne le fait pas.
Tout le monde ne le fait pas. On pense qu'on a de l'eau, on pense qu'on peut se permettre de consommer de l'eau. Il faut quand même savoir que notre commune n'est pas auto-alimentée en eau. On a des sources, mais insuffisantes pour notre consommation. Et à nouveau, notre eau, on est obligé d'aller la puiser à 25 km, de lui faire faire donc une distance incroyable, de mettre des traitements, etc. Tous les mètres cubes qu'on peut autoconsommer sur notre territoire sont autant de moins transportés et consommatrices d'énergie.
Toutes vos actions ont valu à Tramail le prix spécial du jury de la Ligue française des énergies renouvelables en 2011 et de la Ligue européenne des champions des énergies renouvelables en 2012, notamment parce que, comme vous l'affirmez régulièrement, votre exemple peut inspirer d'autres communes. Ce que vous avez fait, c'est réplicable.
Oui, bien sûr. Je tiens quand même à dire que quand je suis allé rechercher le prix européen à Rome, dans mon petit discours, j'ai dit que je regrettais que la commune de Tramail ait reçu ce prix. Parce que j'avais l'impression qu'au niveau de la commune de Tramail, on n'avait pas fait de choses franchement exceptionnelles. Et donc à partir de l'instant où on attribue ce prix à notre commune, ça veut dire que les autres font encore moins. Et ça me désole beaucoup parce que ce que nous avons fait, ce sont des actions de bon sens quelque part, et de gestion de père de famille. On regarde tous nos consommations de chauffage ou nos consommations d'électricité, et on essaie de les limiter maintenant, on essaie tous d'y faire plus ou moins attention. Il me semble que c'est du rôle des élus de gérer leur commune, effectivement, en bon père de famille, en regardant bien comment on peut limiter ces consommations énergétiques.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, que si peu d'élus se lancent dans cette aventure ?
Alors, peut-être la peur de la nouveauté. Mais la nouveauté, vous savez, en chauffer centralisée au bois avec réseau de chaleur, c'était neuf il y a 40 ans. Maintenant, c'est une affaire rodée, ça fonctionne. La gestion de l'éclairage public, c'est plus tout à fait neuf non plus, donc c'est pas franchement ça. Après, il y a peut-être la peur d'apparaître un peu trop écologique, un peu trop marqué dans une orientation ou dans... Pour moi, l'écologie, c'est pas un débat politique, c'est un débat qui dépasse même notre nation. C'est un débat au niveau de notre planète. Chacun de notre côté, on peut avoir des levées d'action plus ou moins importantes. Les élus ont de très gros levées d'action. En particulier, si je prends l'exemple de l'habitat, ils peuvent montrer des exemples de réhabilitation à partir de bâtiments communaux pour démontrer que, en posant correctement des isolants, eh bien, on peut financer l'opération de réhabilitation par un emprunt qui sera couvert ensuite par les économies d'énergie.
Merci Michel Maillard.
Je vous en prie et à bientôt.
Pascal Derme, Tramail est devenu l'emblème désormais du réseau des territoires à énergie positive. Là aussi, il y a un réseau. C'est la preuve que la dynamique est en marche.
Oui, c'est la preuve que cette dynamique est en marche et ça raconte bien comment cette démarche est très pragmatique. Ils ont réfléchi, ils ont associé les habitants, notamment pour cette question d'extinction de la lumière la nuit qui peut choquer. Donc ils ont pris le temps de convaincre, d'en parler à la population. Ils n'ont rien imposé et c'est là où le rôle des élus est intéressant aussi parce qu'ils ont cette légitimité-là et ils prennent leur temps quand ils sont, à condition d'être réélus, bien sûr. C'est un petit peu la condition pour que leurs actions soient pérennes aussi.
Oui, puisque Michel Maillard est maire de Tramail depuis 1995, mais vu que tout ce qu'il fait, évidemment, il est réélu, ça plaît.
Absolument, c'était d'ailleurs une bonne preuve de cette action positive qui peut inciter la population à prolonger et à considérer la vie politique sur le long terme et non pas sur une période de 7 ans. Voilà.
Alors ça, c'est dit juste avant les élections municipales en France. Alors l'objectif, c'est d'aider les habitants à se réapproprier leur consommation et leur production d'énergie. Vous donnez d'autres exemples dans votre livre. Par exemple, l'île Saint-Denis, qui est une commune populaire de 7200 habitants située à une dizaine de kilomètres au nord de Paris. Et là aussi, les résultats sont impressionnants en une dizaine d'années, alors que ce n'est pas la ville la plus riche de France, loin de là.
Absolument. J'ai voulu aller voir une commune populaire donc qui n'a pas beaucoup de moyens financiers et pour laquelle l'écologie n'est pas apparue comme un luxe mais comme une politique de bon sens et qui a même fait des économies puisque depuis 2001 ils ont économisé 500 000 euros quand même par une politique qui est une politique d'économie. Ils ont commencé en fait par nommer un économe des flux, c'est-à-dire quelqu'un qui a été chargé tout simplement d'aller voir dans les écoles, au stade, dans tous les bâtiments publics, les gaspillages d'eau, les gaspillages de lumière, donc on éteint la lumière
en dans
les
bureaux. Économe
de flux. Et en fait, cette personne qui n'y connaissait pas non plus grand-chose, parce que personne à ce moment-là, à l'île Saint-Denis, n'y connaissait grand-chose en économie d'énergie, en transition énergétique, il s'est formé et il a été posé des compteurs dans les écoles, dans les stades, dans les bâtiments publics. Et c'est comme ça qu'ils ont pu prendre conscience de leur consommation. Et une fois qu'ils ont pris conscience, participer. Alors au stade, par exemple, on a arrêté de prendre de l'eau potable pour arroser le gazon. On a puisé dans les nappes phréatiques qui étaient juste en dessous. On a arrêté d'éclairer le stade quand il n'y avait pas de match. Et tout ça, mine de rien, Ça a permis à l'Île-Saint-Denis d'économiser 25% de chauffage, d'économiser 25% de gaz à effet de serre et d'être même en avance sur la législation européenne.
Alors, vous donnez d'autres exemples dans votre livre. À Montreuil, par exemple, c'est vrai que là aussi, il y a, donc c'est toujours en banlieue parisienne, il y a une dynamique où là, la population s'est vraiment impliquée.
Oui, alors à Montreuil, c'est un foisonnement. C'était effectivement intéressant de voir, donc ça tient aux équipes d'élus qui sont sensibilisées à l'écologie, forcément, donc qui ont soutenu ces projets, qui ont fait de la communication autour, mais pas seulement, et pas seulement aux subventions non plus. C'est tout un climat qui fait que ça a pollinisé, on est parti des économies d'énergie, la ville a travaillé avec l'office des HLM qui a été très très actif, c'est-à-dire qu'ils ont rénové leur parc HLM qui était vraiment des passoires énergétiques pour que les gens puissent sortir de la précarité énergétique, c'est-à-dire arrêter de chauffer des murs qui laissent passer la chaleur à l'extérieur. Ils sont en train de travailler sur une monnaie locale, sur la réhabilitation de potagers urbains. C'est parti un petit peu dans toutes les directions. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas cadré forcément. C'est là, à Montreuil, il y a une véritable volonté de la population et la ville suit. C'est pas la ville forcément qui impulse toutes ces actions.
Voilà, donc on a bien compris que la ville, c'est quand même un enjeu essentiel. D'ailleurs, selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 60% de la population mondiale habitera en ville en 2030. Des villes qui consomment déjà plus des deux tiers de l'énergie mondiale. Alors vous le disiez, il y a plus de 300 territoires dans le monde désormais, des quartiers ou des villes moyennes qui sont engagés dans la transition énergétique. Et là, ce n'est que ce qui est répertorié. Mais il y en a sans doute beaucoup plus.
Il y en a partout. C'est parti de l'Angleterre, en fait. Et c'est un mouvement qui a trois principes clés, qui touche en effet des 300 territoires, des villes, des petites villes, des grandes villes, des quartiers de grandes villes, qui impliquent des collectifs d'habitants, de citoyens, et qui reposent sur des principes qui sont simples. La première, on va faire des économies. Donc, on va traquer le gaspillage énergétique. Donc, c'est du bon sens. C'est ce qu'on disait pour l'Île-Saint-Denis. Et donc, ça rapporte de l'argent. Ça n'en coûte pas. La deuxième, c'est qu'on va privilégier les énergies qui sont locales, c'est-à-dire le soleil si on en a, le vent si on en a, la mer, etc.
Et donc apprendre à regarder son territoire.
Apprendre à regarder, à le connaître et à valoriser les ressources qui sont à côté de nous. Arrêter d'acheter loin des économies qui sont polluantes et qui sont chères. Donc c'est vraiment du bon sens. Et ensuite on va favoriser des constructions qui sont économes en énergie. Ça coûte un petit peu plus cher. Mais grâce aux économies qu'on a fait dans les phases d'avant, on a économisé un peu de moyens et on peut débloquer ce budget pour faire de la construction et de qualité écologique, par exemple, ou voilà, d'investir là-dedans.
Voilà, la transition écologique est en marche et plein d'autres aussi sont en cours. On en parle juste après une petite pause musicale.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr. Yeah.
patience long, but soon it won't have any. To find a job is like a haystack needle, 'cause where you live, they don't use colored people. Living just enough for the city.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous parlons des acteurs du changement, ceux qui innovent dans leur quartier ou dans leur ville pour favoriser la transition écologique et créer un mieux vivre ensemble. Nous sommes en ligne avec Anne de Beaumont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élue du conseil municipal de Firminy, c'est une commune de 17 000 habitants proche de la ville de Saint-Étienne dans le sud-est de la France. Alors c'est une ville isolée que vous avez voulu désenclaver en créant une épicerie solidaire au début des années 2000. Alors comment vous y êtes pris au départ ?
Comme je suis militante écologiste, on était très sensibilisés sur toutes les questions d'économie sociale et solidaire. Alors, au début, c'était pas que l'épicerie, j'avais plein d'autres idées, mais c'est vrai que j'avais entendu parler que dans ce quartier de l'AIA, qui est très très enclavé, il y avait avant une épicerie qui avait fermé, et on s'était dit, ce serait bien que ces gens puissent avoir quand même toujours un magasin. Et surtout, l'idée au départ, c'était pas faire que une épicerie, on voulait aussi faire on voulait mettre un séchoir à linge, parce qu'on avait vu que les habitants avaient des tout petits logements et qu'ils n'avaient pas de place pour faire sécher leur linge. On voulait y mettre un fax, on voulait mettre un photocopieur, on voulait y mettre un... Vous voyez, c'était un lieu de rencontre, c'était pas qu'une épicerie. Voilà, c'était ça l'idée.
Et donc, avec un approvisionnement en circuit court, hein, des fruits et des légumes locaux.
Non, alors ça par contre, c'est un petit peu le point faible de notre épicerie. C'est que, moi c'est vrai, c'était plutôt mon idée, mais ça a plutôt tourné en fait qu'on s'approvisionne auprès des grandes succursales, style Leclerc, Casino, etc. Et ça nous fragilise, parce que ces succursales, forcément, ne font pas des prix extraordinaires. Et puis en termes de qualité, c'est sûr que maintenant on est en train de faire un groupe de travail parce qu'on voudrait évoluer et revenir là-dessus et essayer de trouver plutôt des produits. Alors on a quand même des producteurs locaux qui nous vendent des fruits et légumes, mais on a quand même la grosse partie de nos productions viennent de Casino actuellement.
Et oui, c'est pas facile, c'est pas facile évidemment de créer des circuits courts partout. Et en plus, votre idée, puisque c'est une épicerie solidaire, c'était que les familles puissent bénéficier d'une réduction de 30% en caisse. Alors uniquement les familles les plus démunies, aussi celles qui ont des projets qu'elles souhaitaient financer.
C'est les deux. C'est quand même un critère économique. C'est la conseillère en économie sociale et familiale qui identifie les familles qui ont des difficultés financières et qui leur propose, au lieu d'être dans l'assistanat, comme les associations caritatives qui donnent des paquets alimentaires, nous on ne voulait pas être dans cette démarche, on leur propose une remise de prix, mais en échange qu'ils font une économie, on leur propose que cette économie serve à, par exemple, changer le papier peint de la chambre du gamin, payer des vacances à un enfant, payer le permis de conduire pour pouvoir travailler, etc.
Et vous avez recréé du lien social, évidemment, aussi, puisque vous avez mis en place des cours d'accès à l'énergie renouvelable, des cours de cuisine. Et après 8 années de fonctionnement, malheureusement, les comptes sont difficiles à boucler, notamment parce que, c'est une initiative un peu innovante et vous ne rentrez dans aucune case.
Tout à fait. Et ça, c'est un peu notre grand désespoir. Moi, je passe avec beaucoup d'énergie avec les animatrices de l'épicerie à passer des nuits blanches presque pour monter des dossiers de subvention, et on nous répond non, vous n'êtes pas dans le bon créneau, parce qu'on nous reproche d'être à la fois sociale et solidaire. Souvent, les épiceries sociales ont des financements possibles parce qu'elles s'occupent des personnes défavorisées. Mais nous, on ne veut pas se cantonner à une épicerie pauvre. On ne veut justement pas stigmatiser les personnes. On voudrait que tout le monde puisse aller dans l'épicerie. Donc, du coup, pour nous, c'est extrêmement important d'être dans les deux publics, mais on a du mal à trouver des financements parce que c'est très cloisonné en France, c'est toujours comme ça, le social c'est d'un côté,
il faut faire bouger les choses, c'est ce que vous essayez de faire. En tout cas, merci beaucoup Anne de Beaumont pour votre témoignage, bon courage, vous nous tenez au courant, et s'il y a des gens qui écoutent cette émission et qui aimeraient aller voir votre épicerie, éventuellement la soutenir, ce serait bienvenu. Alors Pascal Derme, on entend là la lourdeur de l'administration, dans votre livre vous recensez plein d'initiatives, les gens bousculent les lignes, mais on voit bien que c'est encore compliqué.
C'est compliqué parce que comme vous le disiez, comme Anne de Beaumont le disait, c'est des projets qui ne sont pas forcément, comme ils sont innovants, ils ne sont pas forcément vraiment étiquetables, ils ne rentrent pas dans une case. Par exemple, le projet Darwin dont on parlera, c'est à la fois un projet...
Parlons-en maintenant parce qu'après on sera à la fin de l'émission, donc Darwin, rapidement, c'est à Bordeaux.
C'est à Bordeaux, c'est une caserne, c'est une friche militaire du 19e siècle qui a été éco-rénovée avec des critères d'énergie très très élevés et où maintenant 80 entreprises qui sont dans l'écologie, dans le social, dans la culture ou dans le sport se retrouvent ensemble, mutualisent, partagent à la fois les lieux mais aussi les photocopieuses, l'énergie, leurs clients. Et c'est un lieu très ouvert, très créatif qui génère quand même 50 millions d'euros. Donc mine de rien, c'est assez intéressant. Et c'est un lieu qui a eu beaucoup de mal au début à vivre et à obtenir des fonds parce que c'est à la fois privé, public. C'est à la fois de l'écologie mais en même temps du sport et de la culture. Donc ça, c'est une espèce de nébuleuse comme ça, très, très créative, mais qui ne rentrait dans aucune étiquette administrative. Donc ils ont eu beaucoup de mal aussi au début à avoir de l'argent.
Voilà, c'est ce qu'on disait. Les citoyens font bouger les lignes. Alors c'est vrai aussi en Inde, hein, Jonas Guyot, toujours dans votre démarche d'aller voir ailleurs ce qui se fait pour le répliquer en France. Vous êtes allé en Inde et là, vous avez trouvé un projet que vous allez implanter en France dès la rentrée.
Voilà. Alors en fait, c'est surtout mon ami Mathieu qui, entre la mission aux Philippines et en Inde, a participé à un tour de l'Inde en train pendant 15 jours à la rencontre des entrepreneurs sociaux les plus inspirants d'Inde. Et l'objectif de ce tour, c'est de découvrir la vraie Inde, de mieux comprendre le modèle de l'entrepreneuriat social, de rencontrer des jeunes qui partagent la même vision que soi dans le but, voilà, de trouver sa propre voie. C'était un tour de l'Inde qui était inspiré du tour de l'Inde de Gandhi en 1915, qui a fait cela pour mieux comprendre les besoins de son pays. Donc l'idée, elle est géniale. Et donc Mathieu s'est dit, mais pourquoi ça n'existe pas en France? À nouveau, l'entrepreneuriat social, ça ne peut pas s'enseigner dans une salle de cours, en tout cas pas que dans une salle de cours. Donc il faut qu'on fasse ça. Et il y aura une première édition fin août, début septembre. Un tour de France à la rencontre d'entrepreneurs sociaux innovants et inspirants.
En train pour
50 jeunes. Voilà. Ça va s'appeler Ticket for Change et donc c'est un projet qui repose sur 4 paris, la jeunesse, l'entrepreneuriat, l'optimisme et la France.
Formidable, voilà, ça nous plaît ça dans C'est pas du vent. Alors vous l'avez entendu, que ce soit à travers le témoignage de Jonas Guyot ou à travers le livre de Pascal Derme, il y a énormément de choses qui se passent un petit peu partout dans le monde qui font bouger les lignes. Alors ce qui est difficile, c'est d'avoir accès à cette information. Alors pour suivre l'actualité de ceux qui changent le monde, les médias notamment sur Internet sont précieux. Nous en avons déjà parlé dans C'est pas du vent. Il y a le site sparknews.com qui épie tout ce qui est publié dans le monde comme innovation, qui ont un impact environnemental, social ou économique. Et nous sommes en ligne avec Fabien Basseredo. Bonjour.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Alors vous avez créé Efficycle, c'est un site gratuit sur ce qui se passe dans les pays francophones. Alors vous vous présentez comme un scruteur d'infos durables.
Oui, alors effectivement, je scrute tout ce qui est médias francophones, mais du coup, ces médias-là relaient tout ce qui se passe un petit peu dans le monde. Donc chez Efficycle, en fait, on a deux niveaux de lecture en fait de l'information. On a un premier niveau qui est au niveau du site internet efficycle.fr, où là, on va relayer à peu près 3-4 articles par jour, qui seront aussi relayés sur nos différents réseaux sociaux. Et ensuite, on a un autre niveau qui est un peu plus poussé, qui concerne en fait des veilles thématiques. On a 5 veilles thématiques pour couvrir, on va dire, l'ensemble du champ du développement durable. Donc on a une veille qui s'appelle aménagement éco-construction, on a une veille qui s'appelle déchets recyclage, une veille qui s'appelle écomobilité, une veille qui s'appelle énergie renouvelable, et une veille qui s'appelle management durable, qui est un peu plus généraliste.
Et donc vous épluchez 800 titres hein, en moyenne, c'est pas mal.
À l'heure actuelle, en fait, on capte l'information à différents niveaux. Au niveau des flux d'informations, c'est-à-dire qu'on suit la plupart des sites internet sur le développement durable, on suit à peu près plus de 900 flux RSS. Après, on est abonné à des newsletters, on a aussi des alertes Google pour repérer certaines innovations aussi.
Et vous venez de sortir un hors-série 2013 en 365 initiatives où il y a énormément d'exemples là aussi d'innovation durable. Vous pouvez nous en donner un ou deux rapidement ?
Je vous en donne. Alors, j'ai noté quelques initiatives qui pouvaient être intéressantes. Donc il y a le projet Fontaine de Lumière de Soltis qui en fait a développé des stations d'éclairage solaire pour apporter la lumière à des villages isolés d'Afrique, notamment du Mali et du Sénégal. On a une initiative aussi qui se passe en Afrique du Sud qui s'appelle Felo Fepa, qui sont en fait finalement des trains médicalisés qui sillonnent l'Afrique pour apporter des soins aux plus démunis. On a aussi une innovation qui s'appelle l'iPhone, donc eye, l'œil, en anglais, au Kenya, et qui permet en fait à des ophtalmologistes de faire des diagnostics à distance pour des gens qui auraient des problèmes oculaires. Donc voilà, enfin, il y a énormément d'initiatives.
Il y en a au moins 365 et c'est donc à consulter sur le site www.efficycle.fr et c'est gratuit. Allez jeter un œil comme sur sparknews.com. Voilà, ce sont des sites inspirants pour vous aussi, à votre niveau, faire changer le monde. Merci beaucoup, Jonas Guyot, d'être passé dans C'est pas du vent. Donc on peut relire votre aventure sur destinationchangemakers.com. Et puis donc, vous avez un livre en préparation.
Voilà, je crois qui sera publié le 2 mai et qui va s'appeler « Voyage au pays d'entrepreneurs qui changent le monde ».
Voilà, donc je crois qu'on serait obligé de vous réinviter. Merci beaucoup Pascal Derme. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Ils l'ont fait et ça marche, comment l'écologie change déjà la France » et c'est publié aux éditions Les Petits Matins. Toutes vos coordonnées et bien d'autres sont bien sûr sur la page internet de l'émission www.rfi.fr et merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Demain, nous irons aux Philippines voir comment ce pays se remet difficilement du passage du typhon Haiyan et plus généralement comment vit-on dans un pays régulièrement ravagé par des catastrophes naturelles de plus en plus intenses. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et on se retrouve demain, même planète, même heure.